Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Steve Rivière. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Acclamons le roi des rois. Jésus est digne. Dieu est bon. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un témoin d'une autre réalité. C'est le thème que nous allons voir ce matin. Tu es, si tu appartiens à Jésus-Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit, un témoin d'une autre réalité. La réalité spirituelle, la réalité du royaume de Dieu, la réalité de la nouvelle créature que tu es dans le Seigneur. Jésus, le jour de la Pentecôte, avant que la Pentecôte arrive, a dit à ses disciples, ne partez pas maintenant, attendez de recevoir le Consolateur. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, nous recevons la puissance du Saint-Esprit pour être les témoins d'une autre réalité. Et en priant pour vous, précieux peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais vous encourager à réaliser ô combien nous sommes importants pour le Seigneur. Ô combien, en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle est crucial et majeur. Et j'aimerais tellement qu'ensemble, nous puissions tous, et ceux qui vont nous rejoindre, et les autres églises, celles de Christ qui appartiennent à Jésus, à La Réunion et en France, pleinement vivre ce que le prophète Marc et le prophète Bruno ont prophétisé il y a quelques jours de cela. Parce que la parole prophétique est puissante pour l'église de Christ. Et la saison dans laquelle l'église rentre est une saison extraordinaire. Et j'aimerais réellement, par la grâce de Dieu, en m'appuyant sur le Seigneur ce matin, réellement nous aider tous à comprendre mieux la réalité prophétique que sont les prophètes et qu'est l'esprit de prophétie pour chacun d'entre nous. Savez que la parole prophétique est là pour affecter la réalité invisible. Amen. Mais si la réalité invisible est affectée, c'est pour que la réalité visible soit affectée. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Donc, le message de ce matin n'est pas un message difficile à recevoir par la foi. C'est un message simple, mais qui peut-être risque de surprendre plusieurs d'entre nous. Mais c'est un message de base. La réalité spirituelle, nous devons être les témoins de cette réalité. Et Dieu désire que vous et moi, nous puissions grandir dans la révélation et la compréhension de cette réalité invisible. En tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église, grandir dans cette compréhension est un sujet crucial. Et j'espère qu'à la fin de cette célébration, vous allez réaliser quel est le potentiel énorme que Dieu a mis en vous, spirituel je parle, et qui a la capacité de faire la différence dans la réalité invisible. Nous devons, et je crois, que Jésus veut rendre son Église plus efficace. Jésus veut rendre son Église réellement plus efficace pour que cette Église influence le monde invisible. Et qu'ensuite le monde invisible influence le monde visible. Mais pour ça, il faut que l'Église comprenne sa mission. Que les chrétiens comprennent qu'en tant qu'hommes, on est des hommes naturels, mais aussi des hommes spirituels. Le monde invisible existe. Le monde invisible existe. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Tu vois pas le vent, mais tu vois ses effets. Est-ce que là, qui voit dans ce lieu, les fréquences hertz de la télévision, qui voit dans ce lieu les fréquences hertz de la radio. Là, au moment où je vous parle, il y a des fréquences dans le monde invisible qui sont propagées. Si on a une télé ou une radio bien réglée, on est capable de zapper sur une multitude de chaînes. L'homme a réussi à créer des outils qui sont invisibles. À combien plus forte raison le Seigneur ? À combien plus forte raison Dieu ? Et si l'Église oublie ça, oublie l'existence du monde invisible et vit comme si, bon, ben, c'est pas pour elle, alors elle va passer réellement à côté d'énormes choses, d'énormes bénédictions que Dieu a pour elle. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alors, quelles sont les choses les plus importantes ? Les visibles ou les invisibles ? Et combien de temps passons-nous à nous préoccuper des choses invisibles ? Ou parce qu'elles sont invisibles, négligeons-nous ces choses ? L'apôtre Paul dit : parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et l'Esprit de Dieu veut nous encourager, nous, l'Église de Christ, ce matin, à fixer nos regards plus sur les choses invisibles que sur les choses visibles. Hébreux 11, 3 nous dit, c'est par la foi que nous comprenons. C'est par la foi que nous comprenons. Dans la version Sommer, c'est dit, c'est par la foi que nous comprenons. Le mot reconnaissons, c'est comprendre. Dites après moi, c'est par la foi que je comprends. Que je comprends. Que je comprends. Pas par la raison. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, ainsi que le monde visible tire son origine de l'invisible. La version Sommer, je vous ai lu. Le monde visible tire son origine du monde invisible. Rien de ce qui a été créé n'a pas d'abord été a d'abord été plutôt imaginé. Tout ce qui a été créé a d'abord été imaginé. Vous avez sûrement pensé à un plat ce midi. Avant de le manger ce midi, vous l'avez pensé. Tout ce qui est visible provient du monde invisible. Avant d'être créé, il a été imaginé. Et cela parle de nous aussi. Avant que Dieu t'a créé, avant que Dieu m'a créé, il nous a imaginé. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Parce que ton papa et ta maman voulaient. Ton papa et ta maman ne sont pas capables de choisir ta couleur de cheveux. Ils ne sont pas capables de dire quelle taille tu vas faire. Ils ne sont pas capables de compter le nombre de cheveux que tu vas avoir. Dieu si. Et le monde invisible, c'est le prioritaire. Vous savez, Colossiens 3, verset 1 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On a vu le jour de Pâques que nous sommes ressuscités. C'est très 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 important. On a vu ensemble qu'il faut avoir les lunettes 3D, deux couleurs. La mort de Christ et la résurrection de Christ. Sinon, tu ne vois pas les choses en relief. Le problème souvent de l'Église, c'est qu'elle voit Christ crucifié, mort, fait pitié, mais pas assez Christ ressuscité. Il a porté la croix que pendant quelques heures, alors que pendant 30 ans, il était bien. Mais aujourd'hui, il n'est plus sur la croix, il est assis à la droite de Dieu pour l'éternité. Donc c'est à chaque fois on voit que l'Église est une Église qui se base uniquement sur la mort de Christ, qui nous sauve, qui nous libère, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est le vendredi saint, mais le jour de Pâques, Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, il est toujours ressuscité. Et aujourd'hui, il n'est plus sur la croix. Il a fait ça pour nous, par amour pour nous, un moment. Oui, il est crucifié. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, pour la croix. Mais maintenant, il est ressuscité. Et on a vu ensemble que nous sommes les fils de la résurrection. Que si nous voulons être transformés à son image, nous devons voir non pas Jésus uniquement dans les évangiles, comme il était, uniquement sur la croix, mais le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous puissions le connaître aujourd'hui par l'Esprit. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. L'apôtre Paul a connu Jésus par le Saint-Esprit. Et il disait, on a vu ça la dernière fois, que maintenant nous ne connaissons plus Jésus de cette manière, de la manière humaine, charnelle. Mais c'est par l'Esprit que nous le connaissons. Il est ressuscité et toi et moi avec lui. Colossiens 3, 1 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu. » Les choses d'en haut, c'est les choses invisibles. Les choses d'en haut, c'est les choses invisibles. Vous savez, la croix est le symbole de l'obéissance, on a vu ça. Mais c'est aussi le symbole de l'humiliation, de la souffrance, de l'abnégation où tu dis ben, je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de Dieu c'est dur, je souffre. Et c'est bien. Beaucoup de religions imitent cela. Je ne parle pas de religion chrétienne, je parle d'autres religions. Ça demande une rigueur, ça demande une certaine piété, ça demande donc un sacrifice, ça demande de payer le prix. La croix. Et beaucoup de religions ont des principes qui ressemblent à ça. Mais aucune religion n'est capable d'imiter le principe de la résurrection. Aucune religion n'est capable d'imiter le principe de la puissance de la résurrection. Colossiens 2, verset 23, juste avant Colossiens 3, 1 nous dit... L'apôtre Paul s'adresse à l'Église et cette Église avait tendance à être une Église qui regardait uniquement à la souffrance, à dire, écoute, il faut que je sois dur, je paye le prix, il faut vraiment que je jeûne beaucoup, et c'est des bonnes choses, il faut vraiment que je fasse la tradition, il faut vraiment que je fasse ci pour plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens 2, 23, certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse. Mais je vais lire la version Semeur. Comme ça, les gens vont être un peu différentes. Je vous demande juste d'être attentif, s'il vous plaît. Colossiens 2, 23, version Semeur. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire les aspirations toutes humaines. Et là, il prend la suite. N'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas de chapitre, verset, numéro. Donc, quand l'apôtre Paul a écrit ça aux Colossiens, il enchaîne sur le verset 1 qu'on a vu et il dit, mais vous, le peuple de Dieu, vous, si vous êtes à Christ, donc vous êtes ressuscité. Il est en train de dire, c'est bien la crucifixion, mais n'ayez pas une vie qui manifeste oh, la rigueur du sacrifice et de l'humiliation. Il est en train de dire, mais vous, même si ça c'est une bonne chose, vous devez manifester la puissance de la résurrection. C'est pour ça qu'il vous faut regarder aux choses d'en haut. C'est pour ça qu'il vous faut regarder aux choses invisibles. Et il exhorte l'Église à regarder aux choses invisibles. La puissance de la résurrection. C'est comme s'il disait, fixez vos regards sur les choses invisibles. Il y a donc un monde invisible qui coexiste avec le monde visible. Vous savez que les démons sont des individus de notre réalité. Et les anges aussi. Ils coexistent avec le monde visible. Et nous devons être conscients de ça. Toi et moi, Dis après moi, j'ai été créé pour avoir un impact dans le monde invisible et dans le monde visible. Vous savez, un homme de Dieu a dit, pour nous, il y a deux réalités, le naturel et le surnaturel. Pour Dieu, il y a une réalité, le naturel. Parce que le surnaturel, pour Dieu, c'est naturel. Il disait, pour nous, il y a deux réalités, le naturel et le surnaturel. Pour Dieu, il y a une réalité, le naturel. Et est-ce que vous savez que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés surnaturels? La Bible dit dans Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Dieu a créé l'homme selon son image. Le mot « image » signifie selon sa nature, selon son caractère. Et si Dieu est surnaturel, l'homme était aussi surnaturel. Adam et Ève étaient surnaturels. Vous allez peut-être me dire, « Ouais, mais je ne suis pas trop sûr. » Ben, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous trouvez commun, vous, c'est normal pour vous de parler avec un serpent? Si un serpent vient dans ta cour aujourd'hui, te pose une question, tu réponds normalement? Comme si c'est ton camarade? Combien court? Et Adam et Ève, Satan vient sous la forme d'un serpent, mais il parle avec lui comme si c'est normal. Comme si c'est normal de causer avec un serpent. On fait une petite discussion. Sans être gêné. Adam et Ève ont été créés surnaturels. À l'image de Dieu, c'est créé à l'image du Dieu surnaturel qu'il est. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, est surnaturel. Et la Bible dit que nous sommes créés à son image et que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Cela signifie que nous sommes transformés à l'image de Dieu. Mais si la réalité de Dieu, c'est le naturel de Dieu, c'est le surnaturel et le naturel pour nous. Cela signifie que nous sommes des créatures capables de bouger dans le naturel et dans le surnaturel. J'ai une autre proposition à vous faire par rapport à ça. Écoutez bien ceci. Si Dieu ne voulait pas qu'on vive dans le surnaturel, eh bien, il ne nous aurait pas donné la foi. On garde notre raison, on garde nos émotions, on garde notre volonté, pas besoin d'avoir la foi. Si il nous a donné la foi, c'est pour qu'on puisse retrouver notre véritable identité qui est de fonctionner dans le surnaturel. Parce que la Bible dit, par la foi, rien n'est impossible à Dieu, mais par la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pour ça que vous et moi, nous avons la foi. Pour que le surnaturel de Dieu devienne notre naturel. Qui a envie que le surnaturel de Dieu devienne son naturel? Amen. C'est le cœur de Dieu pour son Église. Mais pour ça, il faut que l'Église s'affectionne des choses d'en haut. Qu'elle se voit ressuscitée. Qu'elle ne se voit pas, je fais pitié, je porte ma croix tous les jours, c'est dur. Oui, Jésus a dit « porte ta croix », mais on a vu ensemble que porter sa croix, c'est obéir, pas souffrir. La croix est d'abord le symbole de l'obéissance avant d'être le symbole de la souffrance. Jésus était obéissant toute sa vie. On va essayer de voir ensemble comment est interconnectée ces deux réalités, selon la parole de Dieu. Comment est connecté, interconnecté le monde visible et le monde invisible pour que nous puissions comprendre mieux notre rôle important? Comment affecter le monde invisible pour ensuite affecter le monde visible? Je vous garantis, frères et sœurs, ceux et celles qui grandissent dans cette révélation, ils vont régler un paquet de problèmes dans leur vie et dans la vie des autres. Bien sûr, on peut affecter le monde invisible par la prière, qui ensuite affecte le monde visible. Bien sûr, on peut affecter le monde invisible par la prophétie, qui affecte ensuite le monde visible. Mais on peut affecter aussi le monde invisible par nos actions. J'ai pris l'exemple tout à l'heure à l'offrande exprès. L'exemple de Corneille. Dieu lui dit, tes prières et tes offrandes sont montées devant moi. Donc, son action naturelle dans le monde naturel a déclenché une réaction dans le monde spirituel. Et Dieu est intervenu dans le monde naturel pour Corneille. Mes frères et sœurs, ça devrait être naturel pour vous et moi. Qu'on comprenne ce mécanisme-là entre ces deux réalités. Parce que Christ est ressuscité. Et qu'on est ressuscité avec lui. Je crois réellement que Dieu est en train d'élever une église où les croyants vont commencer à devenir l'évidence de l'existence d'une autre réalité. Témoin d'une autre réalité. Témoin du royaume de Dieu qui ne consiste pas en parole mais en puissance. Témoin de la réalité du Saint-Esprit. Témoin de la résurrection de Christ dans leur vie. C'est l'église que Dieu veut s'élever. Ils vont commencer à bien comprendre comment le monde invisible, cette église-là, ces chrétiens-là, dont nous faisons partie par la grâce de Dieu, comment le monde invisible peut affecter le monde visible et comment le visible peut ensuite affecter aussi l'invisible. Les deux sont interconnectés. Nous sommes nés de nouveau pour influencer les deux réalités. Éphésiens 2, verset 5 nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec lui, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Waouh ! Toi et moi, on a vu ça encore la dernière fois. On est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ en même temps qu'on est là. C'est par la foi que nous comprenons. Là, si tu raisonnes, on ne comprend pas. Le monde invisible prévalue, domine sur le monde visible. La Bible dit que le monde visible provient du monde invisible. Tout ce qui est créé a d'abord été imaginé. Toi comme moi, on n'est pas arrivé là par hasard. C'est pour ça que le monde invisible domine. Et si, imaginez l'Église qui va comprendre qu'elle est capable, parce qu'elle est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ, elle est capable par le nom de Jésus de s'élever avec Christ dans les lieux célestes et de bouleverser la réalité invisible pour que le cœur de Dieu soit touché et qu'ensuite ça se manifeste dans la réalité visible, cette église-là avec un rouleau compresseur. Et elle va détruire les œuvres de l'ennemi. Parce qu'il n'y a que deux sources. Il n'y a que deux sources de puissance surnaturelle. Deux. Celle de Satan et celle de Dieu. Mais Satan aussi manifeste et il sait. Et les sorciers par exemple. Et les vaudous par exemple. Ils savent utiliser le monde invisible pour jeter des sorts. Pour jeter des malédictions. Mais il faut que l'Église, elle connaisse manifester et bouger dans le monde invisible pour bénir. Parce que la bénédiction est plus forte que la malédiction. Il n'y a rien à voir entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres fuient lorsque tu appuies sur l'interrupteur et la lumière s'allume. La bénédiction est plus forte que la malédiction. Mais il faut que l'Église aussi comprenne ce principe, qu'elle soit une Église spirituelle et en même temps naturelle. Parce qu'il n'y a que deux sources de puissance surnaturelle. On va lire une histoire dans la parole de Dieu qui, je crois, va choquer beaucoup d'entre vous. Chaque fois que je lis cette histoire, moi, je suis choqué. Mais vous allez voir comment c'est incroyable dans les Écritures, comment on peut bouger dedans le surnaturel. Lisons ensemble dans 1 Samuel 28, verset 3 au verset 17. Donc un long passage, mais on va comprendre ces choses-là ensemble. Samuel était mort, tout Israël avait pleuré. On l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais que le roi Saül, ce qu'il a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal en cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu ? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte, ou un homme surnaturel plutôt, qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il ? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi ?» et qu'il est devenu ton ennemi. Waouh. L'Éternel te traite comme je t'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré ta royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Waouh. Ça, c'est un passage qui crée une tempête de cerveau dans l'Église. Parce que les gens disent, oh, il ne faut pas appeler les morts, brûler les morts. Comment ça? C'est vraiment... Il y a des théologiens qui ont fait des études là-dessus. Je suis pas en train de essayer de savoir est-ce que c'est bien Samuel, est-ce que c'est pas Samuel. La Bible écrit Samuel. Mais je vais pas mettre l'emphase sur le pourquoi du comment. L'emphase est sur notre thème de ce matin. Une femme qui fait de la sorcellerie est capable d'intervenir dans le monde invisible. Saül savait que c'était mauvais. Lui, en tant que roi, il avait fait tuer tout le monde parce qu'il sait que Dieu déteste la divination. Mais là, Dieu n'est plus avec lui. Et il dit, trouvez-moi quelqu'un qui invoque les morts. À La Réunion, il y a beaucoup de sorcellerie qui invoque les morts. Si l'église de Christ ne se réveille pas pour ne pas manifester la puissance de la résurrection, ce n'est pas avec notre intelligence qu'on va arrêter la puissance démoniaque. C'est la puissance de Christ. Et ici, ce qu'il y a, c'est que ce qui est vraiment remarquable, c'est que parfois, écoutez bien, bien ceci, il y a des choses qui se produisent dans la réalité invisible, qui a été provoquée par la réalité invisible, mais ce n'est pas parce qu'elles se produisent qu'elles sont bonnes ou justes. Ce n'est pas parce qu'elles se produisent qu'elles sont bonnes ou justes. Ce n'est pas parce que c'est arrivé que ça aurait dû arriver. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné l'autorité à une créature sur terre qui s'appelle homme. Cette créature-là, elle est capable de grandes choses. David dit que cette créature-là est une créature merveilleuse, capable d'aller dans le monde spirituel, tout en étant dans le monde naturel. C'est pour ça que les démons ont besoin d'un corps. Parce qu'eux, ils ne sont que spirituels. Et s'ils veulent faire des dégâts dans le naturel, donc ils possèdent les gens. la parole de Dieu. Hein. Le but, c'est pas d'avoir peur. Le but, c'est pas d'avoir peur, c'est justement qu'on réalise que nous sommes en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, et qu'il y a des galères dans ta vie qui a peut-être été provoquées par des choses, par des gens, par un passé, par des situations, mais qui n'auraient pas dû se produire. Et il faut que toi et moi on comprenne que dans le nom de Jésus-Christ, on a la capacité, à nouveau, par l'autorité du Saint-Esprit en nous, d'aller stopper ça. Nous avons vu qu'en tant qu'homme, cette capacité d'influencer le monde invisible peut réellement affecter le monde visible. Mais en tant que chrétien, on peut plus qu'un sorcier. Affecter la réalité invisible. Je vous signale que Christ est le nom élevé au-dessus de tout nom et il est assis à la droite de Dieu. Et je vous signale qu'on a lu un verset qui a dit qu'on est assis à ses côtés. C'est-à-dire au-dessus, il n'y a personne. C'est que les sorciers, ils sont en dessous. Et l'église de Christ qui va se lever, elle va être dangereuse, vous l'ennemi. Vous savez, l'autorité de Christ qui demeure en nous est puissante. Elle est extrêmement puissante. À un tel point qu'on est assis à côté de lui, mais pas uniquement. La Bible dit dans Éphésiens 3, 10, un verset qui me scotche. Éphésiens 3, 10. J'espère que vous allez mieux comprendre un peu plus ce verset ce matin. Éphésiens 3, 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Dans quel lieu? Célestes. Connaissent quand? Aujourd'hui. Par qui? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église que le monde invisible va découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Ouh ! Par l'Église. Waouh ! Ce verset est dangereux. Moi, je le prends, je dis yes. C'est le cœur de Dieu pour son Église. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes, le monde invisible. Parce que quand l'Église se met à prier, quand l'Église se met à prophétiser, quand l'Église qui est un avec Christ, qui est le corps du Christ, par le Saint-Esprit, se met à déclarer ce que Dieu déclare, quand l'Église se met à dire ce que Dieu dit, quand l'Église commence à recevoir ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu le Père, ce que Dieu le Fils a pour elle, et qu'elle commence à dire, qu'elle commence à proclamer avec foi, même les anges et les démons se rendent compte qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, mais ces gens-là, qui sont des gens naturels, ont par Jésus-Christ la puissance d'affecter le surnaturel. Wow. Pourquoi est-il si important que nous recevions cette révélation ce matin? Pourquoi? Premièrement, premier point, afin que nous arrêtons de vivre une vie qui est ballottée par les circonstances du monde visible. Je vous relis ce verset 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment. Et quand Paul parle de légères afflictions, il parle, lui, d'être martyr. Il parle ici d'être fouetté 40 coups moins 1, 3 fois, naufrage la nuit dans l'océan. Il parle ici d'être lapidé. Il parle ici d'être en péril parmi les païens, en péril parmi les faux frères. Il parle ici d'être en péril partout. Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous ne regardons point aux choses visibles. Pourquoi les circonstances ne l'affectent pas? Parce qu'il ne regarde pas aux choses visibles. Il était habitué à fixer ses regards dans la communion avec Dieu, à trouver Dieu et à voir le monde invisible par la foi. Il était habitué à se connecter dans le monde invisible avec le Seigneur. Et donc il dit non. Les circonstances ne m'affecteront pas. Il avait compris que quelles que soient les circonstances, l'homme a la capacité de changer les circonstances dans le monde visible. Comment ? En affectant d'abord le monde invisible. Parce qu'il y a une interconnexion entre les deux. Pourquoi c'est important que toi et moi, ce matin, grandissions dans cette révélation ? Afin de comprendre l'impact et le poids de nos proclamations. Mettez pour moi, s'il vous plaît, 2 Rois 2, verset 23. 2 Rois 2, verset 23. Il monta à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui dirent, « monte chauve !» Verset suivant. Il se tourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. On parle ici du prophète Élisée. Grand prophète. Double onction du prophète Élie. Mais là, ici, à mon avis, Élisée n'a pas représenté le cœur de Dieu. Imaginez que nous étions un parent de ses enfants. Et que vous apprenez, c'est au nom de l'Éternel que ça s'est arrivé. Vous aimerez Dieu ? Mais pourquoi cela est-il arrivé ? Parce que Élisée était déjà un homme qui exerçait une très grande autorité dans les lieux célestes. Ce qu'il disait bouleversait le naturel. Et là, à mon humble avis, il n'a pas dû se maîtriser. Il n'a pas aimé que les enfants lui disent « chauve, chauve, monte !» Et il les a maudits. Mais il n'a pas mesuré l'impact de ses paroles. Deux ours sortent et tuent 42 enfants. Et l'Église souvent est comme Élisée. Elle a l'autorité, les chrétiens ont l'autorité, et ils disent des choses qui ne mesurent pas comment ça affecte la réalité invisible. Lorsqu'on prophétise, lorsque le prophète Marc, le prophète Bruno prophétise, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour avoir juste des belles paroles, ça a un impact dans la réalité invisible. Et l'Église doit revenir à ça, elle doit réaliser l'autorité que Dieu lui offre. Le prophète Élisée est là. Waouh ! Je me dis, Seigneur, garde-nous. C'est pour ça qu'on doit réaliser qu'on est capable, par notre bouche, d'affecter le monde invisible. Et que quand tu affectes le monde invisible, alors c'est le monde, la réalité prioritaire pour affecter ensuite le monde visible. La Bible dit, Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pour ça que nous devons comprendre ce matin que vous et moi, nous sommes des êtres pas uniquement naturels, nous sommes aussi des êtres spirituels. C'est par le biais de l'Église que Dieu désire révéler au monde céleste sa sagesse. L'Église qui porte le nom de Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit et elle a une grande autorité. Elle est capable de déclarer des choses qui vont se produire. Elle est capable de changer les circonstances. Et nous devons plus que jamais auparavant comprendre cela. Regardez l'erreur d'Élisée. Donc, je vous disais, ce n'est pas tout ce qui se produit qui aurait dû se produire. Dans notre vie, à vous et moi, aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qui se produit qui doit se produire. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été activées dans le monde invisible. Mais ce matin, on se rend compte qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On se rend compte que nous sommes les fils de la résurrection, qu'il est ressuscité, et que peut-être qu'il y a plusieurs autres religions qui imitent le sacrifice, l'humiliation, mais personne, aucune autre religion ne peut manifester la puissance de la résurrection. Seul Christ. Si vous êtes ressuscité avec Christ, alors vous êtes assis dans les lieux célestes. On doit réaliser ô combien nous sommes les témoins d'une autre réalité et que avec nos déclarations prophétiques, nos paroles, on doit apporter la vie. Si ton couple bat de l'aile et que tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis sur ton couple? Si tes enfants vont en vrille, est-ce que à ce moment-là, on est focalisé sur les circonstances? Et donc, on est affligé par les circonstances. Ou on comprend que, oh, les afflictions des circonstances du moment ne sont que momentanées. Et elle va produire en nous une plus grande foi, une plus grande assurance qui va nous permettre d'avoir une récompense éternelle. Et que non seulement on est assis dans les lieux célestes en Christ, pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas aux choses visibles, mais on regarde aux choses invisibles. Quand mes enfants ont des problèmes, et ils en ont, je mets mes regards sur le monde invisible et je déclare les paroles de vie. J'impose les mains et je dis je suis ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes. Et par l'autorité que Dieu me donne, je prends l'autorité et je brise toute attaque de l'ennemi. Et je déclare la vie et je déclare la guérison. Devons réaliser que Jésus même dit dans Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. La bonne traduction serait ce que tu liras sur la terre, la vraie, dans le grec ça veut dire ça, aura été préalablement lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre aura été préalablement délié dans les cieux. Parce que c'est le monde invisible qui impacte le monde visible. C'est la réalité éternelle qui impacte la réalité naturelle. Mais là, Jésus nous dit, je vous donne les clés du royaume de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'autorité que Dieu redonne à l'homme en Jésus-Christ. Le mot royaume signifie autorité, domination. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire que si vous et moi, nous comprenons plus notre rôle majeur et l'impact que nous devons avoir dans le monde invisible, alors nous serons plus capables de stopper et d'annuler les effets de la puissance surnaturelle, démoniaque de Satan avec l'autorité que Christ nous donne. C'est le cœur de Dieu. Ici, Jésus dit à Pierre, je te donne les clés. Pourquoi? Parce que Pierre avait réalisé que Jésus était le Christ. Et il dit, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, non pas sur Pierre, sur cette révélation, sur la révélation de Christ, parce que c'est Christ le roc. C'est Christ le roc. C'est Christ le rocher. Un homme ne peut pas être le rocher. Et il dit à l'apôtre Pierre, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, cette révélation de qui je suis, le Christ, je bâtirai mon église. L'église doit être bâtie sur la révélation de Christ. Et là il continue, juste après il donne ce verset. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Quand tu as la révélation de qui est Jésus, tu as de l'autorité. Quand tu as la révélation qu'il est le Christ, tu as de l'autorité pour lier et délier. Tu as un impact dans le monde invisible. Tu es capable de dire, oh, ça va changer. Et ce que tu dis arrive. C'est le cœur de Dieu pour nous. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Témoins d'une autre réalité. Qui ce matin a plus réalisé qu'il a un potentiel en Christ incroyable et que en Christ tu peux manifester ce potentiel pour stopper ce qui n'aurait pas dû se produire dans ta vie? Qui a mieux compris ça ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?